Bien, donc je vous propose de commencer cette session. Donc j'ai choisi de vous parler de biens publics et du rôle des préférences sociales dans la contribution volontaire au bien public, et cela à partir d'une approche comportementale. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème? Tout simplement parce que c'est un thème qui permet de parler de coopération. Et je pars du point de vue suivant, c'est que l'évolution des sociétés, sociétés animales, sociétés humaines, s'explique peut-être tout autant par la capacité de leurs membres à coopérer, à trouver des règles de coopération, que par la compétition. On a besoin de coopérer pour trouver des aliments, pour les partager, pour les protéger. On a besoin de coopérer pour se défendre contre les prédateurs. Bon, beaucoup d'exemples peuvent être trouvés. Alors me direz-vous, pourquoi n'y a-t-il pas plus de vie en société ? C'est vrai que la majorité des espèces animales vivent individuellement. Alors il y a des tas de raisons, hein, il y a des coûts et des bénéfices associés à la vie individuelle et à la vie en groupe. Tout d'abord, la vitesse de reproduction est beaucoup plus rapide dans les sociétés où les individus vivent séparément, tout simplement. Et d'autre part, l'augmentation de la taille des groupes ou des réseaux exige la coopération et c'est beaucoup plus difficile à obtenir. On sait par exemple qu'il y a une corrélation entre la taille du cerveau des groupes, des individus, et la taille des groupes, la taille des réseaux. Donc c'est quelque chose de complexe à réaliser. La coopération se fait d'abord au sein de la parentèle, bien sûr, et elle s'appuie sur des corrélations génétiques. Mais la difficulté va être d'expliquer pourquoi on observe néanmoins de la coopération entre des individus qui ne sont pas génétiquement reliés. Et c'est tout le mystère qui nous occupe, pas seulement les économistes, hein, mais sans doute la compréhension des conditions dans lesquelles la coopération peut s'établir entre individus non reliés génétiquement donne une clé de compréhension de l'évolution des sociétés. Alors, hier, Alan a beaucoup parlé de fourmis et d'abeilles. Moi, je m'intéresse un peu plus aux primates, donc on va changer un petit peu d'animaux de compagnie. Et je vais prendre un exemple de ce qu'on pourrait qualifier de fourniture de biens publics chez des primates. Et cet exemple, c'est celui du toilettage social. Alors, quand vous voyez cette photo, vous voyez sans doute une mère qui est en train de toiletter son petit. Et vous pouvez penser qu'il s'agit simplement d'une activité hygiénique entre apparentés. Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué parce que ce toilettage social existe aussi entre individus non apparentés chez les singes. Et c'est une activité qui n'est pas simplement pour occuper les après-midi à défaut d'Internet, mais c'est une activité qui a un coût. Il y a un coût qui est mesuré, par exemple, par les défauts de vigilance, et en particulier par le fait que quand les mères procèdent au toilettage, il y a des accidents chez les petits parce qu'elles ne les surveillent pas. Donc il y a un coût individuel à procéder à cette activité. Alors, pourquoi passer du temps à toiletter des individus non apparentés et pendant ce temps-là ne pas s'occuper de ces petits? Eh bien, en fait, le toilettage contribue à la formation des coalitions et définit des réseaux d'entraide pour protéger l'accès aux ressources et pour défendre les ressources contre les prédateurs. Et ça fonctionne, ça, par altruisme réciproque, en fait. Alors, juste vous donner un exemple que vous voyez ici. C'est une expérience qui est faite avec, avec des singes verts. On met une femelle A dans une cage et puis on lui fait entendre les cris d'une femelle B qu'elle ne voit pas. Et on mesure le degré d'attention de cette femelle A vers le haut-parleur qui diffuse les cris de la femelle B. Et on mesure donc le temps d'attention. Et ce qu'il apparaît, c'est que s'il n'y a pas eu de toilettage entre les deux femelles auparavant, bien sûr, le temps d'attention va être beaucoup plus important quand les deux femelles sont apparentées que quand elles ne sont pas apparentées. Pas de surprise. En revanche, s'il y a eu toilettage auparavant, eh bien, le temps d'attention et donc la capacité à intervenir pour aider quelqu'un qui n'est pas apparenté devient significativement supérieur. Donc c'est juste un exemple, mais qui montre qu'une activité, même chez les primates, on peut avoir une activité coûteuse individuellement, collectivement bénéfique puisque ça va créer un réseau d'entraide entre les individus. Alors, dans les sociétés humaines, l'étude de la coopération, la décision de contribution volontaire à la fourniture de biens publics, peut être un outil intéressant pour comprendre comment se développe ou pas la coopération dans les groupes. Alors, dans quel contexte sommes-nous? Eh bien, dans ce type de jeu, l'optimum est la contribution maximum de tous. Mais le rendement marginal individuel du bien public est inférieur à celui du bien privé. Donc il existe des coûts à la coopération. Et donc le comportement de passagers clandestins dans ce contexte est tout simplement rationnel. Alors pourquoi dans ce cas observons-nous de la fourniture volontaire ou de la contribution volontaire à la fourniture de biens publics? On a beaucoup d'exemples sous les yeux. Donc, qu'est-ce qui explique cette déviation du comportement d'équilibre? Pourquoi des individus qui appartiennent à des sociétés si évoluées que les nôtres et si anonymes que les nôtres ne se conforment-ils pas à l'équilibre finalement? Alors, la thèse que je défendrai, c'est que la présence de préférences sociales, alors je le redéfinirai plus tard, hein, l'altruisme, la réciprocité, l'éthique, et les croyances sur le comportement des autres peuvent expliquer que l'on dévie de façon durable ou non de l'équilibre. Et la prise en compte de ces préférences sociales va nous permettre d'expliquer ou de commencer à expliquer certaines situations, en particulier comment parviennent à cohabiter dans les mêmes espaces ce qu'on définira comme homo reciprocans et l'homo economicus. Comment ces deux espèces, est-ce que l'un va réussir à l'emporter sur l'autre? Est-ce que les deux espèces vont réussir à passer des accords de coopération? Quelle est la dynamique d'interaction entre ces différents types d'individus? On va aussi essayer d'expliquer, grâce aux préférences sociales, pourquoi le niveau de coopération diminue régulièrement au cours du temps. Et donc pourquoi des sociétés vont disparaître à défaut, ou des groupes vont disparaître à défaut de pouvoir coopérer. Et puis enfin, on essaiera d'expliquer comment certains groupes parviennent néanmoins à mettre en place des règles de manière endogène qui leur permettent de soutenir la coopération et d'atteindre l'optimum de façon durable. Pour traiter de ces points, je vais m'appuyer sur la méthode expérimentale et pour beaucoup de raisons, en particulier parce que les croyances sur le comportement des autres et les préférences sociales sont évidemment difficiles à établir à partir de données empiriques d'enquête, par exemple. Et donc, par la méthode expérimentale, on va pouvoir identifier en laboratoire ses préférences et ses croyances. Quels sont les autres intérêts de la méthode expérimentale? Eh bien, c'est de pouvoir manipuler la valeur des paramètres, toutes choses égales par ailleurs. On peut changer la taille des groupes, on peut changer le rendement marginal du bien public. On peut aussi changer le type d'information que l'on va donner aux membres du groupe sur le comportement des autres. On peut modifier les liens sociaux. On peut introduire de la sélection, on peut manipuler la durée, la répétition, etc. Je suis bien consciente des limites de la méthode, je n'ai malheureusement pas le temps de les développer, mais il faut les garder à l'esprit, hein, validité externe, taille des échantillons, temps court et d'autres. Donc le plan de mon intervention sera organisé autour de deux grands points. Tout d'abord, la coopération dans la production de biens publics est-elle totalement irrationnelle et due à la confusion des esprits? Ou pouvons-nous réussir à l'expliquer grâce aux préférences sociales et à l'hétérogénéité sur toutes ces préférences sociales? Et deuxièmement, quel peut être le rôle des règles sociales, des règles morales, dans le soutien à la coopération dans les groupes? Et là, j'essaierai de montrer comment, dans le cadre des biens publics, un double problème de passagers clandestins peut être la solution pour atteindre l'optimum. Je vais être un peu plus explicite dans quelques minutes. Alors, sur le premier point. Bon, les caractéristiques d'un jeu standard de biens publics sont les suivantes, et on peut simplement le représenter par un jeu linéaire tel que vous le voyez à l'écran. Donc, les individus dans le groupe reçoivent une dotation initiale D. Ils peuvent décider d'investir une partie de cette dotation dans le bien public. Ce bien public a un rendement marginale par tête alpha, et donc la fonction de profit va simplement s'écrire de cette manière. Je reçois une dotation D, je garde pour moi un certain montant, D moins GI, je contribue GI au bien public, et je bénéficie, quelle que soit ma contribution au bien public, d'une fraction alpha de la totalité des contributions au bien public. Par ce jeu très simple, on voit immédiatement que l'équilibre de Nash consiste à ne pas contribuer du tout, donc à free rider, puisque le rendement marginal du bien public est inférieur au rendement du bien privé, qui est égal à 1 dans l'exemple que je montre à l'écran. En revanche, l'optimum social est que chacun contribue sa dotation, puisqu'on a la taille du groupe fois alpha qui est supérieure au rendement du bien privé. Donc on a un jeu de dilemme social très simple. L'équilibre consiste à ne pas contribuer, l'optimum consiste à contribuer l'intégralité de sa dotation. Alors, qu'est-ce qui se passe en laboratoire lorsque l'on joue ce jeu ? Prenons les paramètres suivants, on forme des groupes de 4 personnes qui reçoivent chacun 20 unités monétaires en début de période. On prend un rendement marginal du bien public de 40%, le rendement du bien privé est de 1. On demande aux joueurs de répéter 10, 20 fois, 50 fois leur décision de contribution au bien public. Et on les informe à la fin de chaque période de la contribution totale du groupe. Voilà. Donc c'est un jeu relativement simple. Hein. Et que voyons-nous dans le laboratoire quand on joue ce jeu ? Eh bien, on voit qu'en première période, en général, les individus contribuent en moyenne autour de 50%. autour de 50% de leur dotation. Et donc on est largement au-dessus de l'équilibre de ce jeu. Deuxième caractéristique, on observe très généralement, même systématiquement, un mouvement vers l'équilibre. Et en général, en fin de jeu, on arrive à l'équilibre de Nash, où on est en moyenne à 10% au-dessus de l'équilibre de Nash. Donc progressivement, on a un déclin de la contribution volontaire au bien public. Donc il y a deux choses à expliquer pour les économistes comportementalistes. C'est pourquoi est-ce qu'en début de jeu, les individus contribuent autant, sans pour autant contribuer l'optimum ? Et pourquoi est-ce qu'on arrive progressivement à l'équilibre de Nash, à la stratégie dominante jouée en dernière période ? Alors, trois grands types d'explications possibles de ces comportements. La première qui vient à l'esprit et qui était l'explication dominante dans les années 80 et 90, c'est la confusion. C'est un jeu qui paraît peut-être simple à un économiste, mais pour un étudiant qui vient dans le laboratoire, même si on lui explique parfaitement les instructions, si on vérifie la compréhension, il peut quand même y avoir des erreurs. Il peut y avoir un trouble. Donc, après tout, la première période, on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. On coupe en deux, hein, on contribue la moitié, puis on voit ce qui se passe. Alors, beaucoup de raisons permettent de penser que cette explication par la confusion n'est pas convaincante. J'ai malheureusement pas le temps de les développer. Je peux revenir dessus s'il y a des questions. Mais depuis les années 2000, plutôt, on développe plutôt deux autres catégories d'explications. Explication en termes de croyance sur les intentions des autres et explication en termes de préférence sociale. Croyance sur les intentions des autres, c'est la chose suivante. Moi, je suis un free rider, j'ai bien compris que l'équilibre de Nash est de ne pas contribuer. Mais après tout, je peux penser que d'autres n'ont pas compris cela et pensent que je suis un coopérateur. Et donc, si les autres pensent que je suis un coopérateur, j'ai peut-être intérêt à leur laisser croire que je suis coopérateur parce que, comme ça, ils vont contribuer. Et donc, les croyances sur ce que je vais faire peuvent amener ainsi à une déviation par rapport à l'équilibre de Nash. Ça, c'est un premier type d'explication. Puis un deuxième type d'explication, c'est donc les préférences sociales. Je contribue parce que je suis quelqu'un de coopérateur. Je pense que le groupe a tout à gagner à coopérer. Et donc, je cherche à atteindre l'optimum et je veux influencer les autres. Je veux que tout le monde arrive à l'optimum. Parce que je suis altruiste, parce que je suis réciproque. Si les autres contribuent, je veux moi aussi apporter ma pierre à l'édifice. Alors, comment tester ces explications alternatives, en tout cas, le poids des croyances et le poids des préférences sociales ? Il y a beaucoup de travaux sur ces questions. J'ai choisi de parler d'un papier récent dans l'American Economic Review de Fischbacher et Gechter. Donc un test direct du rôle des préférences et des croyances. Comment fonctionne cette expérience ? Eh bien, cette expérience se fait avec les mêmes joueurs en deux temps. Tout d'abord, on a une expérience dite P pour définir les préférences des joueurs. Comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, les joueurs prennent une décision de contribution dans le jeu que je vous ai présenté tout à l'heure. Et on leur demande ensuite de déclarer pour chaque niveau moyen de contribution des autres membres de leur groupe quelle contribution ils seraient prêts à faire au bien public. En d'autres termes, si la dotation de chacun est de 20, eh bien on leur demande de dire si en moyenne les autres membres de votre groupe contribuent zéro, que choisissez-vous de contribuer? Si en moyenne les autres décident de contribuer 1, que contribuez-vous, etc. Jusqu'à, si en moyenne les autres membres de votre groupe contribuent 20, que décidez-vous de contribuer? Donc on a ainsi une correspondance entre les décisions conditionnelles au comportement des autres. Et ça va nous permettre de définir les préférences des joueurs. Ces joueurs ensuite participent à une expérience dite C pour éliciter leurs croyances. Ici, le jeu se déroule de la manière suivante. Avant de décider de contribuer réellement au bien public, on demande aux individus de déclarer leur croyance sur le comportement des autres membres du groupe. À votre avis, que vont contribuer les autres membres de votre groupe? Et sans qu'on leur donne évidemment la réponse, la personne ensuite prend sa décision de contribution. Donc on a à la fois les préférences avec la première expérience et les croyances avec la deuxième. Alors, comment définit-on les préférences? Simplement, on regarde la contribution moyenne et la pente de la régression de la contribution en fonction des contributions des autres, dans la première expérience. Les free riders, un free rider va être défini par une contribution nulle au bien public, il joue l'équilibre de Nash, et la pente est zéro, il est totalement indifférent à ce que font les autres membres de son groupe. À l'opposé, vous allez avoir des altruistes qui sont eux prêts à contribuer la totalité de leur dotation initiale, mais ils ont également une pente de régression nulle, ils sont également indifférents à ce que font les autres. Ils cherchent simplement à faire le mieux possible à leur niveau. Puis vous avez une autre catégorie, ce sont les coopérateurs conditionnels parfaits, qui en moyenne vont donc contribuer 10 et vont avoir une pente de 1, c'est-à-dire si les autres contribuent 5, je contribue 5, si les autres contribuent 10, je contribue 10, s'ils contribuent 20, je contribue 20. Puis enfin, on a une dernière catégorie, ce qu'on appelle les contributeurs triangulaires, qui sont des individus qui, pendant la première moitié des valeurs possibles de contribution, de 0 à 10, se collent parfaitement à ce que font les autres. Si les autres contribuent 5, je fais pareil, je contribue 5. Et puis, une fois qu'ils pensent que le bien public est suffisamment volumineux, au-delà de 10, ils commencent à essayer de tirer avantage, et donc là, ils décrochent. Donc ils suivent le comportement conditionnel jusqu'à une contribution moyenne de 10, mais au-delà de 10, ils se mettent à freerider. Donc on a une catégorie un petit peu mixte. Comment se répartissent ces différents types de joueurs dans la population? Eh bien, vous voyez le graphique du haut. Vous avez ici la valeur de la pente de la régression entre ma contribution et la contribution moyenne des autres. Et ici, le niveau moyen des contributions. Vous voyez cette masse importante en zéro, eh bien, ce sont nos free riders. Je contribue zéro et la pente est nulle. À l'opposé, vous avez une masse ici qui correspond au coopérateur conditionnel parfait, contribution moyenne de 10 et pente de la régression égale à 1. Malheureusement, les altruistes sont fort peu nombreux, on s'en doute. Donc eux contribuent 20 et ils sont indifférents au comportement moyen des autres. Alors, quel est le poids relatif de ces populations? Alors, vous les voyez à nouveau représentées ici. Alors, les free riders sont là. Ici, vous avez la contribution moyenne des autres membres du groupe et la contribution de l'individu. Vous voyez, ces free riders, ils contribuent zéro, quel que soit le comportement des autres. Eh bien, ils représentent, en fait, à peu près 20%, 25% de la population, un quart. C'est des valeurs qu'on retrouve dans à peu près toutes les études. La catégorie la plus fréquente, ce sont les coopérateurs conditionnels. Vous voyez, ils ne sont pas tout à fait parfaits, sinon ils seraient le long de cette diagonale. Mais vous voyez, cette droite ici correspond aux coopérateurs conditionnels et eux représentent à peu près 55% à 60% de la population. Donc le comportement le plus fréquent, c'est la coopération conditionnelle. Donc c'est un type de préférence sociale qui est « je suis prêt à coopérer, j'ai bien compris que le mieux pour le groupe, c'est de contribuer, mais je m'ajuste au comportement moyen des autres membres de mon groupe. Quelles sont les croyances et l'effet des croyances sur les contributions? Ben là, on peut représenter la pente de la régression de la contribution individuelle par rapport aux croyances que j'ai sur ce que font effectivement les autres. Et vous voyez une distribution des points qui est relativement similaire, c'est-à-dire qu'on a une très forte corrélation entre la pente estimée dans l'expérience P, basée sur les préférences, et les pentes estimées dans l'expérience C, qui, elle, s'appuie sur l'élicitation des croyances. Ce qui apparaît, c'est que plus la croyance sur la coopération des autres est forte, et plus la contribution individuelle augmente. Mais si on contrôle pour les croyances, en fait, on voit que tous les groupes, sauf les freeriders, contribuent bien davantage que les freeriders. Donc en fait, ces freeriders ne freeride pas, ces passagers clandestins ne freeride pas parce qu'ils croient que les autres sont également des freeriders, c'est bien parce qu'ils ont cette préférence à jouer l'équilibre. Alors est-ce que le déclin des contributions est dû davantage à l'évolution des croyances ou aux préférences sociales ? Eh bien, un exercice de simulation que je n'ai pas le temps de montrer en détail ici montre qu'en fait, ce ne sont pas les croyances qui expliquent le déclin de la contribution. C'est parce que les contributions déclinent que les croyances s'ajustent. En revanche, ce sont les préférences des individus qui expliquent ce déclin de la contribution. Et il faut deux éléments pour expliquer cette évolution. C'est tout d'abord la coopération conditionnelle. Donc, si je pense que les autres contribuent, eh bien, je contribue. Si je pense que les autres se mettent à freerider, je vais le faire également, parce que je ne veux pas être, entre guillemets, le dindon de la farce. Donc même si je suis vraiment un coopérateur, eh bien, je vais m'ajuster sur le comportement de freeriding des autres. Mais il nous faut un deuxième élément. Il n'y a pas que la coopération conditionnelle imparfaite. Il y a également ce qu'on appelle le biais de self-serving. C'est-à-dire que je m'ajuste au comportement moyen des autres, mais j'essaye de tirer un petit avantage personnel. C'est-à-dire que si les autres sont prêts à contribuer en moyenne 10, eh bien, je vais contribuer 9. Donc, ça va avoir un effet d'entraînement à la baisse sur la contribution à l'intérieur du groupe. Donc, à la période suivante, en moyenne, on va contribuer 8. Eh bien, si je pense que les autres contribuent 8, je vais me mettre à contribuer 7. C'est-à-dire que je vais essayer de tirer un petit avantage personnel en contribuant un petit peu moins que la moyenne attendue du comportement des autres. Et c'est la combinaison entre ces deux éléments, coopération conditionnelle et biais de self-serving, j'avoue avoir du mal à traduire en français, qui va expliquer qu'on a ce déclin au fur et à mesure du temps et que donc on va arriver très naturellement à jouer l'équilibre de Nash en fin de jeu. Pour résumer ce que j'ai dit jusque-là, forte hétérogénéité des préférences sociales avec une majorité de coopérateurs conditionnels dans la population, forte cohérence entre les préférences énoncées et les comportements réels quand ce jeu est joué effectivement en laboratoire, et coopération conditionnelle et biais de self-serving qui expliquent le déclin. Ce qui signifie donc au total jusqu'à présent qu'en l'absence d'institutions, le freeriding s'impose. Il s'impose même si on a une majorité d'individus qui sont des coopérateurs. Même si vous avez une population composée principalement d'individus prêts à coopérer, à contribuer, vous avez quand même ici une domination du freeriding et les freeriders imposent la norme au groupe. Alors, me direz-vous, comment est-il possible de sortir de l'équilibre et de se rapprocher de l'optimum? Est-ce qu'on arrive quand même à produire du bien public sans intervention de l'État ou... Alors, en particulier, on peut regarder quel est l'effet de la réduction de l'hétérogénéité des préférences. Alors, en laboratoire, on peut manipuler donc beaucoup de choses, et en particulier, on peut reformer des groupes de manière exogène. Ça signifie qu'on va faire jouer nos joueurs une première fois, on va identifier leurs caractéristiques, et on va reformer nos groupes de 4 ou 5 joueurs ou 6 joueurs en fonction des préférences exprimées lors des périodes précédentes. Autrement dit, on va mettre les freeriders ensemble, on va mettre les altruistes ensemble et on va mettre les comparateurs conditionnels ensemble. Quel est l'effet de cette recomposition? Sur les freeriders, aucun effet puisqu'ils sont indifférents au comportement des autres. Donc vous voyez que les freeriders, eux, convergent très très tôt vers l'équilibre de Nash, s'en éloignent très peu. En revanche, les comparateurs conditionnels, la courbe verte, qui sont des individus qui, en présence de freeriders, se mettent également à freerider, eh bien, quand ils sont dans un environnement où ils sont appariés à des individus qui ont les mêmes préférences sociales, ne quittent pas le niveau de l'optimum. Ils contribuent le maximum de leur dotation. Et donc on arrive collectivement à atteindre l'optimum avec ce réappariement des groupes. Et l'effet est encore plus fort quand les individus sont informés de la règle de réappariement des sujets. On peut également proposer aux individus de composer leur groupe eux-mêmes. Donc on laisse les groupes se reformer de manière endogène. Alors il y a plusieurs façons de le faire. On peut demander aux individus de classer par ordre de préférence les membres, les participants à l'expérience dans la salle en fonction de leur contribution individuelle. Et puis on va essayer de satisfaire ces préférences. Ou bien on peut donner le droit à chaque sujet d'être mobile et de créer un nouveau groupe, ou bien de rejoindre un nouveau groupe, moyennant un coût. Ou bien encore, on peut lui donner la possibilité de quitter son groupe et puis aussi de mettre dehors des membres de son groupe. Quelles sont les conséquences de ces différentes manipulations? Eh bien, très clairement, la possibilité de choisir les membres de son groupe augmente le niveau moyen de coopération. C'est un effet très, très marqué. Mais deuxièmement, quelle est la dynamique du jeu quand on peut quitter un groupe et en créer un autre? On a une dynamique un peu perverse, c'est-à-dire que les coopérateurs, les altruistes, sont un petit peu fatigués de la présence de freeriders dans leur groupe, donc acceptent de payer pour former un nouveau groupe. Oui, mais quelle est la réaction des freeriders? Les freeriders quittent le groupe précédent et essayent de coller aux coopérateurs. Donc on a une espèce de déplacement et une dynamique où les coopérateurs payent pour créer des nouveaux groupes et les freeriders courent après les coopérateurs pour essayer de se retrouver. Et donc dans ce contexte-là, on est incapable de créer la grande coalition et on n'a pas du tout de gain, d'augmentation de la taille du groupe. En revanche, dans le dernier cas, je pense à l'expérience de Charnes et Yang, où on peut à la fois être mobile et expulsé. Ah, alors là, on a un résultat très différent. Et là, on observe que la grande coalition est très fréquemment constituée. C'est-à-dire que le fait de pouvoir être mobile soi-même, mais le fait de pouvoir aussi expulser à une règle majoritaire quelqu'un dont on pense qu'il ne joue pas la règle du groupe, eh bien, en fait, conduit à constituer une expérience où tout le monde appartient à un groupe unique et où tout le monde arrive à converger vers l'optimum. Alors c'est assez intéressant parce que, quelle est la dynamique ici? C'est l'imitation des freeriders, enfin, les freeriders se mettent à imiter les coopérateurs et les altruistes. Et donc, avec ce principe de sélection et d'expulsion et d'extradition en quelque sorte, la coopération s'impose, même si une fraction significative d'individus est prêt à adopter un comportement de passager clandestin dès que c'est possible. Mais on a un comportement d'imitation et on renverse complètement la dynamique. Donc tout à l'heure, on a vu que c'était plutôt l'homo economicus qui impose sa marque aux altruistes et à l'homo reciprocans. Ici, on voit que c'est au contraire l'homo reciprocans qui finit par être imité par les freeriders et qui impose son mode de vie, en quelque sorte. Alors, cette conclusion, elle est vraie, surtout donc si on introduit ce droit d'expulsion. Et ce droit d'expulsion, on peut appeler ça une sanction, finalement. C'est déjà une règle morale qui est introduite, qui est donnée aux joueurs. Et donc, ça m'amène à la deuxième partie de ma présentation, sur le rôle potentiel des règles morales dans le soutien de la coopération au sein des groupes. Ce que on pourra appeler également le mystère des sanctions altruistes. Alors, en quoi y a-t-il mystère? Il n'y a pas mystère au sens où on ne connaît pas beaucoup de sociétés sans normes morales et sans système de punition. Mais il y a mystère dans la mesure où ces sanctions sont coûteuses. Et pour mettre en œuvre ces sanctions, eh bien, il faut accepter de payer un coût supplémentaire. Donc, est-ce que les individus sont prêts? Autrement dit, on introduit un deuxième problème de freeriding, un problème de freeriding de deuxième niveau. Je veux bien qu'on ait des sanctions pour punir les freeriders, mais je ne veux pas être celui qui paye pour l'introduction de ces sanctions. Alors, ici, la contribution majeure est un article de Ferregester dans l'American Economic Review paru en 2000 sur les sanctions altruistes. Alors, comment fonctionne le jeu? Eh bien, on repart du jeu très simple de biens publics linéaires, tels que je vous l'ai montré tout à l'heure. Simplement, on va ajouter une deuxième étape à ce jeu. À la fin de la première étape, à la fin de la première étape de contribution, on va informer chaque membre du groupe de la contribution individuelle des autres membres de son groupe. Ça reste anonyme, bien sûr, mais on sait la contribution de chacun. Et on va pouvoir, moyennant un coût, infliger une sanction à chacun des membres de son groupe. Alors, dans le papier initial de Fair et Gechter, cette sanction va, chaque point de sanction va réduire de 10% le gain de la personne qui est punie, le gain de première étape de la personne qui est punie. Avec un maximum à 100%, on ne peut pas faire de perte. Dans les versions ultérieures, on introduit un mécanisme plus simple. Un point de sanction coûte une unité à celui qui punit et réduit de 3 points, par exemple, le gain de celui qui y est puni. Voilà, on peut avoir ce type de mécanisme. Dans tous les cas, celui qui est puni paye un coût monétaire. Son propre gain va être aussi réduit. Alors, quel impact sur l'équilibre ? Aucun, parce qu'en deuxième étape du jeu, je n'ai aucune raison de dépenser, de réduire encore mon gain pour punir quelqu'un, puisque c'est une interaction en one shot, je ne reverrai pas, je ne réinteragirai plus avec cette personne, donc je n'ai aucune raison individuellement à supporter ce coût. La sanction n'est pas crédible, donc en première étape, la contribution, enfin l'équilibre prédit toujours une contribution nulle. L'optimum est, lui, bien sûr, de toujours contribuer la totalité et de ne pas punir. Donc on n'a aucune modification des prédictions de ce jeu. Qu'observe-t-on dans le laboratoire ? On observe des choses intéressantes. Vous voyez, dans les premières 10 périodes de jeu, il n'existe pas de sanction. Donc c'est le jeu que je vous ai présenté jusque-là. Progressivement, on se rapproche de l'équilibre de Nash. Puis, à partir de la 11e période, on introduit ce droit de sanction que je vous ai décrit. Et là, vous voyez que progressivement, enfin immédiatement, on contribue davantage en moyenne, et progressivement, on se rapproche de l'optimum. Dans le panel de gauche, on représente des interactions en one-shot, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque période de jeu, on réapparie les membres du groupe. Donc chacun sait qu'il ne réinteragira plus avec la même personne. Deuxième graphique, on fait apparaître des interactions continues, c'est-à-dire je sais que je suis toujours dans le même groupe jusqu'à la fin du jeu. Et là, vous voyez, quand les relations sont durables, on atteint très très vite l'optimum. Donc, bien qu'étant totalement hors équilibre, on voit que les individus sont prêts à payer pour sanctionner les autres, et on voit que cela a un effet majeur sur les contributions, même quand ce jeu est joué de manière non répétée, et quand on joue de manière répétée, dans des groupes fixes, l'optimum est atteint extrêmement rapidement. Donc c'est un résultat très, très robuste qui a donné lieu à beaucoup d'extensions. Mais en tout cas, ce résultat est très fort. Alors, dans un papier suivant, avec David Masclay et Charles Nusser, nous avons introduit des mécanismes de sanction, mais ils étaient cette fois-ci symboliques pour éviter des pertes d'efficience. C'est-à-dire qu'ici, attribuer des sanctions ne coûte rien. Bon. Et ne retire rien, c'est-à-dire vous distribuez des points de désapprobation. Donc, bah, bien sûr, on peut toujours distribuer des points de désapprobation si ça ne coûte rien, ça, c'est pas un résultat très, très excitant. Par contre, le résultat plus intéressant, c'est que le niveau de coopération augmente, même quand on ne fait que recevoir des points de désapprobation morale, en quelque sorte. Donc, ici, on a 10 premières périodes sans sanction. On a 10 dernières périodes sans sanctions à nouveau, et entre les deux, on a introduit ces sanctions morales. Et si vous suivez la courbe noire, qui est la courbe moyenne agrégeant tous les groupes, donc on converge vers l'équilibre de Nash, on introduit ces sanctions morales, et vous voyez que là aussi, on n'atteint pas l'optimum, mais on s'en rapproche, alors qu'il ne s'agit que de sanctions morales. Donc les individus sont sensibles à cette espèce d'éthique ou à cette désapprobation de la part des autres membres de leur groupe et changent leur comportement. Alors, ces sanctions altruistes sont-elles pour autant irrationnelles ? Non. Alors, je vais essayer de rapidement vous donner quelques arguments justifiant d'une analyse économique de ces comportements de sanctions. Bon, tout d'abord, ces sanctions ne sont pas distribuées aléatoirement. Elles sont attribuées aux personnes qui violent la norme du groupe. Quelle est la norme du groupe ? C'est la contribution moyenne. En gros, on va punir ceux qui ne respectent pas la contribution moyenne. Et sur ce graphique, vous voyez les déviations par rapport à la moyenne de contribution du groupe, Donc ici, on est conforme à la moyenne. Vous voyez que plus vous déviez du comportement de contribution au moyen des autres, et plus vous attribuez des points de sanction. Donc les sanctions peuvent être très fortes, clairement, pour les personnes qui s'écartent le plus du comportement moyen du groupe. Donc on n'aime pas les gens qui s'écartent de la moyenne. Deuxièmement, on peut expliquer le comportement de sanction avec la loi de la demande. Il est très clair que plus sanctionner est coûteux pour celui qui punit, et moins on va punir pour une déviation donnée. On a cette expérience qui montre que, ici on a une échelle de déviation par rapport à la moyenne du groupe, et ici on manipule le coût pour celui qui veut punir les autres. Voilà, on a une échelle de 0 à 120. Et vous voyez très clairement que bien sûr on va plus punir des personnes qui dévient négativement de la moyenne du groupe, mais on a aussi ce mouvement, plus le prix de la sanction est fort, évidemment, et moins on l'utilise. Donc c'est un comportement qui répond bien à la loi de la demande. Troisième argument, les sanctions, certes, réduisent le gain monétaire, sont coûteuses, mais elles créent une utilité émotionnelle. Alors, si on pense qu'il existe dans le cerveau une valeur neurale commune entre la monnaie et la morale, eh bien, dans ce cas, payer pour sanctionner peut créer de l'utilité, si on ressent des émotions négatives. Et donc, par l'imagerie cérébrale, on va pouvoir étudier ce qui se passe dans le cerveau quand on paye pour punir, quand on punit sans avoir à payer, etc. Comment fonctionne notre cerveau ? Alors, à partir d'un jeu de, non pas de bien public, mais de confiance, on a pu montrer que, enfin, De Kervin et co-auteur ont pu montrer que, sous IRM, hein, les sanctions coûteuses activent le striatum. Le striatum, c'est la zone dans notre cerveau qui s'active quand on processe des récompenses monétaires, des récompenses morales. Donc, punir à un prix active cette zone de satisfaction, de plaisir. Deuxième résultat, les sujets qui ont la plus forte activation du striatum en punissant sont ceux qui acceptent de payer le plus. Donc, ils réduisent le plus leur gain pour payer, et c'est eux qui ressentent en même temps la plus grande satisfaction. Donc, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est ce que ces auteurs ont appelé le « sweet taste of revenge ». On n'aime pas les free riders, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on peut les punir ? Et notre cerveau fonctionne et enregistre cela. Alors, avec une méthode différente, ce que nous avons fait à Lyon, c'est utiliser donc des mesures électrophysiologiques où on étudie la conductance de la peau, la transpiration, si vous voulez, qui est un outil nous permettant d'évaluer l'intensité émotionnelle des individus. Et on retrouve le même résultat. On voit que si je ne punis pas, je suis relativement calme et peu émotionnellement activé. En revanche, dès que je distribue un ou plusieurs points de sanction, mon niveau d'activation émotionnelle est extrêmement fort. Alors, en termes de valence, en fait, on distingue deux effets. Quand on punit, et plus on punit, eh bien, on a un premier effet qui est un effet négatif, c'est-à-dire qu'on juge, on continue à juger le freerider très négativement, donc on génère ces émotions négatives. Mais économétriquement, si on contrôle pour cet effet-là, on voit que plus on peut punir, plus on distribue de points de sanction, et plus on crée de la satisfaction. Donc il y a deux effets. Je suis malheureux d'être avec des freeriders, mais à nouveau, si je peux les punir, acceptons le fait qu'ils sont freeriders, si je peux les punir, mon utilité est très très nettement accrue. Je peux les punir à un coût monétaire pour moi, n'oublions pas. Dernière raison pour laquelle c'est relativement rationnel de punir, c'est le fait que la sanction impacte les contributions futures. Bien sûr, les individus qui ont reçu une sanction se mettent à coopérer davantage. Ce qui est important, c'est que ceci est vrai même dans des interactions en one-shot. J'ai été puni par des membres de mon groupe, je suis affecté à un nouveau groupe, mais je vais quand même en tenir compte et je vais néanmoins augmenter ma contribution. Et on voit que plus les conséquences pour la personne qui est punie d'une sanction sont fortes, et plus en moyenne le groupe va se mettre à produire de la coopération. Donc les individus réagissent, même quand on est en phase d'interaction non répétée. Et on peut ainsi créer, pour les conséquences monétaires élevées de la sanction, des gains d'efficience tout à fait importants au sein des groupes. Alors, les sanctions punissent les déviations de la norme sociale, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il y a une seule norme sociale ? Après tout, il y en a peut-être plusieurs. Alors, il y aurait plusieurs façons de répondre à cette question, je vais en évoquer une seule. Je vais en évoquer une seule parce qu'on a quelques travaux récents qui essayent justement de s'intéresser aux cultures pour comprendre l'évolution, le développement économique. Et donc, je voudrais évoquer des travaux qui viennent d'être réalisés dans 6 cultures différentes. Donc c'est toujours le même jeu, hein, on reste dans le même cadre. On va simplement transposer ce laboratoire dans différents pays dans le monde. Et puis on va voir si eh bien, on coopère de la même manière, si on sanctionne de la même manière et si on réagit de la même manière aux sanctions. Donc cette étude a été faite avec 1100 participants dans 16 lieux différents. Ce sont des zones qui partagent en gros les mêmes structures économiques, mais qui ont des différences en termes de valeurs, de religion, de système politique ou d'histoire. Quels sont ces 6 blocs ou 6 ensembles de cultures? Les pays anglo-saxons, les pays de l'Europe protestante, hein, donc la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, les pays orthodoxes ex-communistes, la culture confucéenne, le sud de l'Europe avec la Grèce et la Turquie, et les pays arabophones. Voilà, c'est le même jeu, donc pendant 10 périodes, on coopère sans pouvoir, enfin, sans pouvoir sanctionner les autres. Et puis à partir de la 11e période jusqu'à la 20e période, on a ce droit de sanction coûteux qui est introduit. Alors vous voyez que selon les cultures, on a des comportements assez différents. Les comportements moyens sont assez proches entre pays anglo-saxons, Europe protestante et culture confucéenne. On se rapproche de l'équilibre de nage quand il n'y a pas de sanctions et on essaye de grimper petit à petit vers l'optimum quand on introduit les sanctions. Bon, ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Là où on observe des choses très différentes, c'est, regardez, les pays d'Europe du Sud, les pays arabophones et les pays ex-communistes. Là, on a des profils très différents. On a des profils avec une plus forte stabilité de la contribution quand il n'y a pas de sanctions, et puis, visiblement, absolument aucun effet de l'introduction des sanctions. Alors, il y a 2 explications possibles. Il n'y a pas d'effet parce que personne n'utilise les sanctions, ou il n'y a pas d'effet parce que les sanctions créent une autre dynamique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardons ici les dépenses consacrés par les individus pour punir les membres de leur groupe. On a simplement les dépenses, mais on va distinguer 2 types de sanctions. Les sanctions qui s'adressent à des freeriders, les gens qui contribuent moins que la moyenne, en gris clair. Et puis, en noir, les dépenses pour sanctionner des coopérateurs. Alors, sanctionner des coopérateurs, c'est un peu curieux, a priori, parce que les coopérateurs, dans le groupe, c'est ceux qui vous permettent de gagner plus. Donc c'est un petit peu bizarre. Pourquoi punir des individus qui augmentent votre gain monétaire? Alors, en fait, l'explication... Bon, vous voyez très peu de différence sur les sanctions des freeriders. Hein, les dépenses moyennes sont relativement proches et pas significativement différentes entre cultures. En revanche, très très grosse différence pour les sanctions dites antisociales. Les sanctions ont puni quelqu'un qui coopère plus que vous. Alors, dans l'étude, 3 explications sont données. Hein. Je devrais passer au slide suivant. Quand est-ce qu'on sanctionne contre les coopérateurs? Dans quelle culture on sanctionne les coopérateurs? Bien que ça paraisse économiquement totalement irrationnel. Bien, comportement de vengeance aveugle. Je suis freerider, j'ai été puni. Celui qui m'a puni, c'est très certainement un coopérateur. Donc je vais me venger, de façon aveugle, je ne sais pas qui c'est, mais ça ne fait rien, je me venge. 2e explication, on a une corrélation entre l'usage de ces comportements ou punitions antisociales et des moindres normes de coopération physique, d'après le World Value Survey. Donc des pays, des cultures, pardon, dans lesquelles on va accepter plus la fraude dans les transports en commun, on va accepter plus la corruption. Cultures dans lesquelles il y a une moindre force de la loi, c'est-à-dire qu'on déclare ne pas tellement faire confiance à la police, à l'État, au Parlement, aux modes électoraux, etc. Voilà. Et puis un dernier élément, les sociétés collectivistes. Bon, malheureusement, je manque un peu de temps pour développer ce point. Donc pour résumer, l'existence ou l'introduction d'une règle de sanction endogène entraîne généralement la coopération, mais il n'y a pas d'unicité des normes. Les sanctions antisociales viennent, dans certains contextes, limiter l'efficience de cette institution. Et donc on a une perte d'efficience très très nette liée à l'introduction des sanctions dans ce contexte. Et puis, dernière conclusion, c'est que l'analyse de la contribution au bien public doit prendre en compte plusieurs types d'hétérogénéité. Là, je reprends tout à fait l'idée d'Alan hier. Bien sûr, hétérogénéité entre les individus, hétérogénéité entre les groupes et hétérogénéité entre les cultures. Donc, il faut vraiment arriver à penser cette hétérogénéité, à lui donner un statut. Alors, quelle théorie prédit le mieux tous ces comportements? Compte tenu du temps qui me reste, je vais seulement effleurer ce point. La théorie standard, basée sur des préférences purement égoïstes, clairement n'explique pas les comportements dans ces jeux. La théorie de l'altruisme pur, non plus, puisque si on est un altruiste pur, on n'a aucune raison de punir les autres, de réduire les gains des autres. La théorie de Matthew Rabin sur les équilibres de bienveillance peut en partie jouer, mais on a vu que les croyances ne sont pas la première explication des déviations de l'équilibre de Nash dans ce contexte, c'est beaucoup plus les préférences. Alors, il y a une théorie qui est potentiellement plus riche pour expliquer les comportements observés, c'est la théorie de l'aversion à l'inégalité, en particulier dans l'aversion de Ferré-Schmidt, par exemple. On souffre de gagner moins que les autres, et on souffre, un petit peu moins, de gagner plus que les autres. Si vous avez cette aversion à l'inégalité, et s'il y a suffisamment d'individus averses à l'inégalité dans un groupe, on peut comprendre qu'on dévie de l'équilibre de Nash. Par contre, on n'explique pas les sanctions. On a fait une expérience avec David Masclay où, justement, on introduit un ratio de coût égal pour celui qui punit et pour celui qui est puni. Donc, quand vous punissez, vous ne réduisez pas l'écart de gain entre vous et l'autre. Et pourtant, on voit la même quantité de punition dans ce contexte-là. Donc même quand la punition ne réduit pas l'inégalité, ne rétablit pas une meilleure égalité dans le groupe, on continue à punir. Donc il y a d'autres explications, en particulier le rôle des émotions, bien évidemment. Alors le modèle qui rationalise sans doute le mieux les données actuelles est, parmi les économistes comportementalistes, celui plutôt du modèle dit de réciprocité forte. Et l'idée, c'est que par réciprocité forte, donc je cite Guintis, l'idée c'est d'avoir une propension à coopérer, à partager avec les autres qui se comportent comme vous, qui ont les mêmes préférences que vous, même si ça vous coûte individuellement, et une volonté de punir ceux qui violent la norme sociale, la norme coopérative, même à nouveau, même quand cette punition est coûteuse. Et donc si on a des joueurs qui sont fortement réciproques, on peut avoir dans ce jeu plusieurs équilibres, un équilibre avec de la coopération, des équilibres de défection, et donc les groupes, selon leur composition, selon les préférences des individus qui les composent, peuvent arriver à se fixer sur un équilibre ou sur un autre. Et donc des sociétés, finalement, la société culturelle de ces groupes va progressivement favoriser les groupes qui coopèrent et qui résistent mieux, qui sont mieux à même de résister à des conflits. Là, j'aurais pu parler des jeux de conflits entre groupes, et on pourrait montrer que si on introduit de la compétition entre les groupes, eh bien, plus vous avez de coopérateurs conditionnels dans un groupe, plus ce groupe va être capable de résister par rapport aux autres, à la compétition, à la concurrence avec les autres groupes. Donc, je vais conclure. Pour résumer, en gros, les messages à ramener à la maison, premier message, c'est les préférences sociales, donc la coopération conditionnelle, plus que les croyances, expliquent la déviation initiale à l'équilibre de Nash et en même temps la progression vers l'équilibre de Nash en fin de jeu dans les jeux de bien public. Deuxième message, l'existence de règles, même totalement informelles, hein, comme les sanctions altruistes contre les déviations de la norme, peuvent soutenir la coopération entre des individus qui sont effectivement non génétiquement reliés, qui savent qu'ils ne vont plus interagir à nouveau ensemble. Ce qui était une des questions de départ. Troisième conclusion, en l'absence d'institutions, le free riding va s'imposer, même si on a une majorité d'individus prêts à coopérer dans la population. Avec la sélection et ou les sanctions, la coopération va réussir à s'imposer, même si on a une majorité d'individus conditionnels ou égoïstes. Enfin, pas d'unicité des normes selon les groupes et les cultures, donc il faut arriver à produire des modèles, là je renvoie à la conclusion d'Alan hier, arriver à produire des modèles qui expliquent l'hétérogénéité et les interactions. Et puis enfin, les émotions et la réciprocité, doivent clairement faire l'objet d'une analyse économique, d'une réflexion théorique en économie, pour pouvoir expliquer donc la réaction aux sanctions, les comportements de contribution et la coopération dans les sociétés. Voilà, donc je vais terminer ici pour laisser un peu de temps à la discussion. Ma conclusion, vraiment, au-delà, je reviens à mes primates de départ. Je défendrai assez volontiers l'idée que les sociétés les plus évoluées sont sans doute celles qui sont les plus à même de coopérer dans les situations de conflit d'intérêts, de concurrence et de tension. Et que certaines arrivent à mettre en place ces règles informelles et parviennent à la coopération, d'autres beaucoup moins. Donc il est vraiment important d'arriver à travailler sur les mécanismes qui permettent d'arriver à produire de la coopération pour garantir plus d'efficience. Voilà. Je vous remercie.
Des travaux de Rabin de 1993, qui, selon mon interprétation, sont pas en contradiction avec ces résultats-là, puisque selon moi, dans cet article de 1993, moi je ne suis pas de l'article dont on parle, l'idée de Rabin, c'est justement de modéliser une réciprocité au niveau des croyances. Et les croyances sont interprétées au sens de l'intention. Donc je serai généreux envers quelqu'un qui a de bonnes intentions. Et je serai au contraire méchant envers quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Et donc ce type de théorie-là n'est pas en contradiction, me semble-t-il, avec ces résultats.
Non, j'ai été effectivement extrêmement rapide à la fin de mon exposé et ça mériterait beaucoup plus de nuances. Par rapport effectivement à la théorie de Rabin qui effectivement intègre les intentions. Mais je serais plus tentée d'utiliser à ce moment-là le modèle de Rabin et Charnes qui permet d'intégrer des considérations d'efficience tout autant que des dimensions de réciprocité et qui me paraît plus complet pour expliquer les comportements observés. Alors, ça mériterait évidemment des développements plus importants. On ne peut pas balayer comme ça. Je ne voulais surtout pas... J'ai eu tort, si j'ai donné cette impression, balayer la théorie de Rabin. Mais en tout cas, on peut expliquer les comportements que l'on a en laboratoire sans avoir ce jugement sur la croyance, sur ce que je pense que les autres pensent, que je pense d'eux. Voilà. On n'a pas besoin forcément de ce niveau de complexité dans l'interprétation des intentions pour déterminer sa décision de contribution. Puis par ailleurs, ce modèle, il est fait pour des interactions non répétées. Et donc, voilà.
Ça vient aussi du type d'expérience, on n'a pas besoin des intentions dans ce type d'expérience. Il y a des actes ne correspondent pas forcément aux intentions. Donc, ce que dit Rabin, c'est que c'est à ce moment-là les intentions qui comptent, plus que les conséquences.
Non mais je suis d'accord avec vous.
Je peux juste enchaîner sur une remarque au sujet. Évidemment, on a tous été... les présentations ont toujours beaucoup de succès quand on parle de ces différences culturelles. Je trouve que c'est effectivement... fascinant, mais je pense que ça, on doit aussi beaucoup réfléchir à notre approche scientifique, parce que c'est finalement pas très étonnant qu'une méthode qui a été proposée par cette culture anglo-saxonne, cette culture de l'Europe du Nord, je ne vais pas dire que l'Europe du Sud ne participe pas à la recherche, mais tout de même, il y a peut-être quand même une corrélation entre le fait que la culture qui propose une méthode se retrouve se voit dans un miroir comme ayant le meilleur reflet.
Ah, je n'ai pas dit qu'il y avait un comportement dans un type de culture qui est meilleur qu'un autre. Et simplement, la reproduction par la même méthode, dans les mêmes conditions, dans différents espaces dans le monde, permettent d'identifier des comportements, des dynamiques comportementales d'interaction différentes. J'ai jamais dit qu'il y en a une qui est plus efficace que l'autre. C'est vrai que c'est toujours assez séduisant d'avoir conscience de cette hétérogénéité. Hein. Je n'ai pas à donner de jugement normatif sur un comportement plus qu'un autre. L'intérêt de cette méthode, c'est quand même d'arriver à reconstituer exactement dans les mêmes conditions le même jeu, le même environnement et de voir si, dans ces conditions identiques, les individus ont des décisions différentes.
Ce que je voulais dire, c'est que ces conditions-là sont les conditions choisies par une culture. Donc, si on changeait toutes les conditions, si on voulait on avait une autre approche de ce problème-là. On en...
Tout à fait.
J'ai juste une question que tu dois déjà anticiper, parce que ce qu'on fait, donc, parce que toutes ces expériences ont été catégorisées des gens. C'est-à-dire que je dis que tel et tel genre est de tel type, ou il est plus altruiste, ou il a une aversion à l'inégalité, ou etc. Donc, on a une idée qu'il y a une catégorisation stable des gens. Et donc, les expériences qu'on a fait avec Wally Fischer, quand on examine les individus, on voit qu'ils sont beaucoup moins stables dans leur performance dans le temps. C'est-à-dire qu'on voit que des gens qui sont des freeriders, qui donnent zéro, tout d'un coup, contribuent, etc. Donc il y a beaucoup plus de variabilité dans les individus que ils semblent quand on regarde la moyenne. La moyenne semble se comporter d'une façon telle comporter ça. Et juste une remarque, si on regarde cette notion de diminution des paiements, on voit que chaque fois, si on teste, un tiers des gens, à peu près, augmentent le paiement, un tiers diminue et un tiers reste constant. Et évidemment, le montant de diminution est plus important que le montant des autres. Mais quand même, les gens sont, dans un certain sens, moins stables dans leur attitude que les théories semblent suggérer.
Oui, alors la coopération conditionnelle fait que quand même ils s'adaptent beaucoup, ils changent leur comportement en fonction de l'observation du comportement des autres. Quand même, hein. On a bien sûr des individus qui sont, alors est-ce qu'ils sont confus, je ne sais pas, est-ce qu'ils essayent différentes stratégies, peut-être, c'est de l'exploration aussi, donc c'est vrai que la réalité individuelle est plus complexe. Dans la décomposition des études sur les cultures, la décomposition de la variance des contributions donne un poids, quand il y a des sanctions, hein, donne un poids de 20% de la variance expliquée par la dimension culturelle, 35% par l'hétérogénéité des groupes et à peine 12% par l'hétérogénéité des individus. Donc c'est vrai, ça compte, c'est indiscutable, mais c'est un poids apparemment relatif. Bien, écoutez, je suis vraiment à votre disposition pour répondre à d'autres questions sur cette approche comportementale. Le temps, malheureusement, est compté, enfin malheureusement, moi, est compté. Donc je suis obligée d'arrêter ici cette présentation. Donc, je vous remercie d'avoir été présent. Voilà, je vous invite aussi à rester à la session de l'Assemblée générale de la société qui va être enchaînée immédiatement. Voilà.